France Inter.fr.
Bien les enfants, reprenons notre leçon d'histoire.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
Voltaire et la religion.
J'aime Dieu, je le respecte, mais je hais ces religions grotesques qui affirment qu'il s'occupe de nous comme un grand papa de ses petits-enfants.
Monsieur le multiforme n'a évidemment pas toujours tenu le même discours en matière de religion, mais il s'est toujours inscrit entre deux bornes. L'athéisme et le fanatisme sont deux monstres qui peuvent dévorer et déchirer la société. Et il ajoute... L'athée, dans son erreur, conserve sa raison, qui lui coupe les griffes, alors que le fanatisme est atteint, lui, d'une folie continuelle. Ceci est écrit en 1771. C'est dans ces dernières années qu'on peut en effet le mieux saisir le langage de Voltaire en la matière. Après 1762 et l'affaire Calas, il habite pleinement sa vérité. Depuis son château de Ferney, il expérimente alors la fonction du guetteur d'idées. Chaque fois qu'il le peut, il sonne l'alarme contre les dévots de tout poil. Depuis, le rôle a été repris par d'autres interlocuteurs, mais le dernier Voltaire, le Voltaire septuagénaire, l'emporte souvent sur ses successeurs par la grâce du style et la légèreté de l'écriture. André Versailles, bonjour.
Bonjour, Jean Lebrun.
Vous publiez Autodictionnaire Voltaire chez Omnibus. Vous avez une assez joyeuse idée, que Sacha Guitry d'ailleurs avait eue avant vous.
Pour la préface ? Ouais. Oui.
Qu'est-ce qui répondait Sacha Guitry quand on lui disait « Qu'est-ce qu'on peut lire sur Voltaire ?» Ouais.
Mais il disait « Mais lisez Voltaire !»
Voilà.
Exactement. Et en fait, j'avais intitulé ma préface « Préface inutile ». Elle fait quand même finalement 85 pages parce que j'avais un contrat, donc je devais la faire. Mais ce qui m'intéressait dans ce dictionnaire-là, c'est que comme il n'y a pas le contexte, on lit ces textes-là comme s'ils étaient contemporains. Et quand on lit ces textes, débarrassé du contexte, on a l'impression que ce sont des textes écrits aujourd'hui.
Parce que le principe du dictionnaire, c'est de collationner dans les livres souvent oubliés, parfois ignorés, de Voltaire, le texte de Voltaire lui-même. Vous parliez de votre contrat. Alors, nos auditeurs savent peut-être que vous êtes un grand éditeur d'histoire, fondateur de Complexe, puis des éditions André Versailles. Juste un mot de Voltaire historien. Aujourd'hui, on nous vend les secrets de l'histoire, les complots de l'histoire, alors que Voltaire, il allait beaucoup plus profond. Ce qui l'intéressait, c'était de voir à l'œuvre, dans l'histoire, une rationalité.
Oui. D'abord, première chose, c'est un des premiers qui va écrire une histoire universelle. Avant lui, il y avait Bossuet qui avait écrit une histoire universelle, mais qui parle de l'Europe et avant ça un petit peu du pays de Canaan, puisque c'est là que le Christ est né. Et pour lui, ça n'a pas de sens de parler d'histoire universelle si on ne parle pas de tout. Donc il parle de la Chine, donc il parle de la Russie, il parle des Amériques. Bien sûr, ce n'est pas un historien de première main, c'est un vulgarisateur. Mais ce qui est extraordinaire, si je prends l'ouvrage moi qui m'a le plus impressionné, c'est l'essai sur les mœurs. Malheureusement, est épuisé. C'est un gros ouvrage qui fait 1200 pages. Si la documentation, évidemment, n'est pas du tout au jour, on imagine bien 250 ans plus tard, ce qui est extraordinaire, c'est que chaque fois qu'il aborde une question, il l'aborde par un biais qui nous la rend tout à fait actuelle. C'est sa réflexion qui est intelligente. Il nous apprend à réfléchir sur les faits. Il dit d'ailleurs, la chronique des rois n'a aucun intérêt. Si c'est pour voir un souverain idiot qui succède à un souverain furieux, ça ne nous apprend rien. Mais essayer de vraiment comprendre les mentalités de l'époque, il parle des mœurs, l'histoire économique, c'est un des premiers qui va faire ça. Donc il fait une histoire à la fois sociale, économique et des mentalités ensemble avec la réflexion du philosophe.
À la recherche d'une élévation possible des idées, d'un progrès possible, sauf qu'il y a partout des fanatismes. Alors, votre dictionnaire, évidemment, comporte un grand nombre de pages consacrées au fanatisme. Et il disait, il faut savoir s'entendre sur les mots, Voltaire.
C'est ça. Définissez les termes, vous dis-je, sinon on ne se comprendra jamais. En fait, Voltaire est un rationaliste et ce qui lui fait peur, c'est le charabia. Il dit, en substance, les obscurités de langage renvoie immédiatement à l'obscurantisme. Et ce n'est pas un jeu de mots. Parce que si vous parlez d'immanence, si vous parlez de choses qui sont irrationnelles, je ne peux pas répondre. Mais si vous êtes rationnel, à ce moment-là, on est à égalité et je peux combattre. Donc, tout son travail en littérature, par exemple, ou dans le journalisme, c'est de combattre les gens qui sont obscurs, des gens qui se drapent dans un langage qui est incompréhensible pour impressionner le peuple. Et donc, c'est son grand combat. C'est la limpidité du langage.
Alors, les fanatiques, il y en a partout. Ce sont des têtes chauffées qui portent des bandeaux sur les yeux. Il y en a jusque dans le peuple. Il y en a chez les juges. Il y en a chez les jésuites qui l'ont élevé. Il y en a chez les Huguenots, dont il a fait une expérience cuisante à Genève entre 1755 et 1760. Nous sommes ici en 1762. Un nommé Jean Calas vient d'être condamné à être roué, accusé qu'il était d'avoir assassiné, lui, le protestant, son fils Marc-Antoine, à qui il reprochait de vouloir se convertir au catholicisme. Et un commerçant de Marseille vient rendre visite à ce sujet à Voltaire à Ferney.
Et que fait-on à Toulouse, monsieur Audibert ?
Du négoce, monsieur, du négoce.
Je n'ai rien à acheter.
Sauf votre respect, je n'ai rien à vous vendre.
Monsieur Audibert est huguenot.
Alors bon.
Il vient demander votre aide à propos d'une famille huguenote, emprisonnée à tort selon lui, et qui est en grand danger.
Et que reproche-t-on à cette famille huguenote ?
Le pire des crimes. Tout cela uniquement parce qu'ils sont huguenots.
Mais encore, huguenot n'est pas un brevet d'innocence.
Non plus que de culpabilité, si vous le permettez.
Certes, toutes les religions s'égalent en cruauté. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont minoritaires que les réformés ne sont pas aussi des fanatiques, pétris de la même merde détrempée de sang corrompu. Nous ne valons pas grand-chose, mais ils sont encore pires que nous. Et en plus, il déclame contre mes tragédies. Il n'est pas une de mes pièces dans les théâtres de Genève qui ne fasse l'objet de leurs insultes. Regardez leur dernière cabale contre mon Tancrède. Je suis le sujet permanent de leurs calomnies. Osez me dire le contraire. Serviteur, monsieur. Raccompagnez monsieur Audibert.
Nous sommes heureux de vous apprendre, André Versailles, que dans cette dramatique à la télévision de Francis Resserre, le rôle de Voltaire était tenu par
Claude Rich.
Par Claude Rich lui-même, qui renvoie Audibert à Marseille ou à Toulouse et qui lui dit, moi les Huguenots, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Ce n'est pas une affaire de défense des Huguenots, l'affaire Calas.
Alors je remarque, je ne connaissais pas ce film ou cette émission, mais c'est les mots qu'il utilise. Pétri de la même merde... Ce philosophe pouvait parfois se lâcher. C'est dans sa correspondance, effectivement. Non, il n'est pas du tout proche des Huguenots. Je veux dire, il tient le christianisme de manière générale et les chrétiens de manière générale pour des fanatiques. Et l'un vaut l'autre. Le Huguenot vaut le catholique et réciproquement. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui ne supporte pas l'idée de persécution. De manière vraiment, je veux dire, on a dit qu'il va se servir de l'affaire Calas pour se faire mousser, comme on dirait aujourd'hui. Au-delà de ça, c'est quelqu'un qui a vraiment un sentiment de pitié pour cette famille et en même temps, l'homme de cœur ne perd pas le stratège qui est derrière lui, c'est quand même quelqu'un qui va se rendre compte qu'à partir de l'affaire Calas, on peut faire de Calas un symbole et de l'affaire une affaire non seulement nationale, mais européenne. Voltaire, au début, comme on a vu, il ne croit pas à l'innocence de Calas, mais il va mener son enquête. Il va vraiment travailler, il va mener son enquête et il arrive à la conclusion que, comme il dit, on a roué le plus innocent des hommes, que même que des gens près de lui, quand il est mort en une espèce de saint. Et à partir de là... Il va vraiment, et ça c'est quelque chose qui est vraiment important, la manière dont il va devenir le premier des intellectuels. On en parlera peut-être vers la fin.
Un intellectuel d'avant l'affaire Dreyfus.
Absolument, absolument. C'est le premier des grands intellectuels et Hugo, Zola, Sartre, Camus, ce sont ses enfants, mais se référant toujours à lui, quoi.
Alors finalement, Calas va être réhabilité 3 ans après avoir été roué, sa veuve pensionnée, comme quoi la justice peut devenir meilleure quand la rationalité est au travail dans l'histoire. Et c'est peu après qu'il publie un livre qui vous intéresse beaucoup, que vous citez abondamment dans votre auto-dictionnaire Voltaire, qui est le traité sur la tolérance, 1763.
Alors le traité de la tolérance... C'est un ouvrage fait comme il fait d'habitude. Ce sont des petits chapitres sous forme de questions et où il discute avec son lecteur. Ce qui est très intéressant là-dedans, c'est de voir est-ce que c'est un vrai tolérant ou pas. C'est-à-dire, est-ce que c'est quelqu'un qui veut la liberté totale des autres ou au contraire, c'est la tolérance stricto sensu. Je vous tolère, mais ça ne vous donne pas d'égalité. Et la question est vraiment importante. Pourquoi ? Parce que soit... ce n'est pas un vrai tolérant. Ce qu'il veut, c'est que les gens soient libres de faire ce qu'ils veulent. Ou bien alors, c'est un stratège. Ce n'est pas un révolutionnaire. Il sait que quelque chose qui serait radical ne serait jamais accepté. Il ne faut pas fatiguer les nobles. Il faut vraiment être très... parler comme ça entre la poire et le fromage. Et il arrive à ses fins. C'est-à-dire qu'il va imposer quand même la tolérance et, comme vous dites, la réhabilitation de Calas. Ceci dit, je pense que ce n'est pas un vrai tolérant. Je pense que c'est quelqu'un qui ne supporte pas la persécution, comme on l'a dit, mais ça s'arrête là. Donner des droits égaux, son modèle c'est l'Angleterre. Après tout, les catholiques n'ont pas de droits égaux aux protestants en Angleterre. Ils n'ont pas besoin d'en avoir ici. Ça suffit comme ça, quoi. Donc, mais c'est quand même un très grand pas. Donc ne négligeons pas, il faut se remettre dans les années 60. Il fait vraiment avancer les choses. Et peut-être que la société n'est pas mûre. Il faudra attendre la Révolution française pour avoir des droits équivalents.
Dans le traité sur la tolérance, vous citez ce passage, il s'adresse directement à Dieu, j'allais dire sous la forme d'une prière, mais le mot est peut-être étranger à son vocabulaire. La tolérance est le rôle de Dieu dans son petit royaume à lui, parce qu'il est seigneur de Ferney, à la frontière de la Suisse et du pays de Gex français. C'est à Ferney qu'il a reçu l'annonce de l'affaire Calas, qu'il a écrit le traité sur la tolérance, qu'il reçoit ici son curé.
Que me dit-on ? Que vous voulez détruire mon église ? Car elle vous gêne la vue ?
Que me dit-on ? Que vous voulez tirer du sommeil une dîme qui ne demande qu'à se faire oublier et avec les arriérés encore ?
Oh, vous cherchez des prétextes. Parlons de mon église. Je n'aime pas votre comédie. Du reste, vous ne croyez pas en Dieu ?
Mais si, j'y crois. Je crois même que s'il n'existait pas, il faudrait l'inventer. Je crois en Dieu, curé, ne vous en déplaise, mais je ne crois pas dans les prêtres qui nous volent jusqu'à notre dernier soupir. Ma comédie vaut bien la vôtre. Oui, elle me gâche la vue, votre église. Et son cimetière avec, mais je ne vais pas les détruire. Non, les déplacer, seulement les déplacer. Vous verrez, ce sera tout à votre avantage.
Les déplacer ? Mais on ne peut changer une église et un cimetière d'endroit. En aucune façon, vous entendez ? En aucune façon !
Et la dîme ? Vous n'êtes pas beau joueur, curé. Laissez dormir la dîme et ses arriérés, ne tendez pas mes paysans, et nous pourrons reparler de votre église et de son cimetière.
Enfin, on n'a jamais vu une église déplacée. Vous allez être excommunié.
Si on ne peut plus s'offrir quelques menus gourmandises anticléricales...
Eh bien, ils veulent la déplacer, son église, au prix du déménagement des ossements humains, mais ce sont des côtelettes de mouton, dit-il. Et puis au prix de l'achat d'un nouveau presbytère pour le curé, qui va du coup accepter la transaction. Et sur l'église de Ferney, on voit ça encore quand on y va, il y a une plaque au-dessus de la porte, « Deo, erexit Voltaire ». Voltaire est écrit plus gros que « Deo ». Voltaire a érigé pour Dieu cet édifice. Alors, le déisme de Voltaire, le dieu de Voltaire.
En fait, effectivement, Dieu est un théiste ou un déiste, comme on voudra. C'est-à-dire,
c'est
une religion.
Vous venez de dire, Dieu est un théiste, avez-vous dit ? C'est Voltaire qui est théiste.
Pardon. Et c'est une religion très intellectualisée, décharnée. Pas de miracles, pas de mystère, etc. C'est un dieu qu'on ne voit pas, que l'on prie, mais c'est le grand architecte. Donc c'est quelque chose de très abstrait. C'est pour ça que ça ne prendra jamais, quoi. Le théisme ne prendra jamais. Que l'athéisme prendra, mais pas le théisme. Parce qu'il tient, ça aussi c'est une autre ambiguïté, il tient à Dieu. Il dit, j'ai besoin que Dieu existe parce que je pense que je serai moins volé par mes domestiques et par d'autres. Il faut un frein, il faut un frein là, au peuple. Il dit tel à la perversité ou la faiblesse du genre humain qu'il vaut mieux qu'il soit subjugué par toutes les superstitions possibles, pourvu qu'elles ne soient point meurtrières, bien sûr, que de vivre sans religion. L'homme a toujours besoin d'un frein. Un athée qui serait violent, puissant, serait un fléau aussi funeste que les superstitieux. Donc il est, c'est ce que vous avez annoncé au début, mais il n'est pas équidistant de l'athéisme, parce que l'athéisme n'est pas vraiment un danger à l'époque. Il peut y avoir des athées, mais ils ne sont quand même pas très nombreux, alors que le fanatisme chrétien, je veux dire, là, il y a des milliers de pages contre le fanatisme chrétien.
Il n'avait pas imaginé ce que pourrait être un régime athée, il n'avait pas imaginé qu'un leader bolchevique, que vous citez, dise un jour, bah non, moi j'irai jamais à Ferney, c'est pour les hommes d'esprit, et je hais les hommes d'esprit.
Absolument, ça c'est Lénine. Et je crois que Voltaire n'aurait pas non plus été à la Place Rouge pour voir la momie de Lénine. En fait, ils n'ont rien à voir ensemble. L'un est un révolutionnaire et prêt à beaucoup de violence pour la Révolution. Voltaire ne supporte pas la violence et il croit de toute façon que ce n'est pas la violence qui change quelque chose. Son modèle, c'est l'Angleterre, c'est-à-dire une société qui est policée, dans laquelle il peut y avoir une opposition très forte, mais qui ne débouche pas sur la violence.
Alors, le théisme de Voltaire, c'est un dieu artisan qui répète ce qui est déjà connu par les hommes. Jésus-Christ, c'est un dieu artiste, lui. C'est pas ce qu'il va advenir comme un romancier quand il commence à écrire. Dieu ennemi, dieu impitoyable, dieu secourable, ça, ce sont les paroles que Voltaire a mis dans la bouche des héros de la princesse de Navarre. On va entendre un extrait de cet opéra qui a été composé par Rameau et qui raconte les aventures d'une princesse qui, prise entre la tyrannie de son tuteur, l'insistance de son prétendant, se réfugie chez un brave baron de la campagne.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
L'orchestre baroque et les chœurs du festival Bach sous la direction de McGuigan. Ce qui est drôle, c'est que cet opéra de 1745 a été repris peu de temps après par Rousseau, qui lui a donné un autre nom. Il y a un article Rousseau, bien sûr, dans votre auto-dictionnaire Voltaire, André Versailles. Mais aujourd'hui, nous parlons de Voltaire et de la religion. Vous disiez, les révolutionnaires se sont servis de lui, mais il ne peut pas leur appartenir. Les libres penseurs se sont servis de lui, mais il n'est pas athée. Il sert à beaucoup de monde. Il ne peut pas servir aux juifs.
Non. La question juive chez Voltaire est très ambiguë. D'abord, premièrement, il y consacre énormément de pages, plusieurs milliers. Je veux dire, donc il y a l'œuvre de Voltaire, c'est des milliers de pages, évidemment. Donc,
Il y a quand même une légère obsession.
Il y a une obsession, manifestement. Alors, c'est vrai qu'il y a des textes qui sont, inaudibles aujourd'hui, c'est impossible, enfin, même à l'époque, à mon avis. Il y a l'antisémitisme, mais en même temps, et c'est ça son ambiguïté, c'est que il n'arrête pas de fustiger les chrétiens pour leur antisémitisme, en disant que d'abord parce que c'est criminel, et en plus parce que c'est absurde, puisque Jésus est juif, donc vous êtes absolument incohérent en persécutant les juifs. Et en plus, et il y a des pages aussi, justement, contre la persécution.
Mais
plus
il n'aime pas chez les juifs le fait qu'ils soient les aïeux du christianisme.
Mais je voulais ajouter une chose, il y a un texte qui est malheureusement très peu connu, qu'il signe du rabbin Akib, c'est un de ses 160 pseudonymes, c'est assez étonnant, et qui est, je crois, à mon avis, la plus belle défense que l'on peut faire des Juifs.
Alors, si vous voulez bien, on va tout mettre sur le tapis, avant d'accord. que vous ne deviniez l'avocat, vous-même d'ailleurs, dans votre livre chez Omnibus, vous citez des textes très hostiles. Voltaire n'aime pas d'abord l'idée du peuple élu. S'il y a un peuple élu, ça lui est insupportable.
Ça lui est absolument insupportable. Encore une fois, c'est un théiste, et c'est-à-dire que Dieu aime tous ses enfants. Et est-ce qu'il est possible qu'il privilégie une petite horde perdu à Canaan? Il dit ça n'a aucun sens. Et en plus, il pense que ça n'a pas de sens par rapport à l'idée qui se fait de Dieu.
Un peuple élu, non, un peuple non. minuscule.
J'étais déjà bien convaincu que de misérables habitants d'un petit pays resserré de tous côtés par des nations puissantes avaient puisé chez ces nations toutes les fables absurdes que son infâme superstition a consacrées. Tout est phénicien ou égyptien chez ces misérables Hébreux. Le nom de Jéhovah même était phénicien. Il me paraît démontrer d'ailleurs que les Juifs écrivirent très tard et eurent très tard des lois, puisque ces voleurs vagabonds ne s'établirent en Canaan que lorsque les Chaldéens, les Égyptiens, les Syriens, les Phéniciens faisaient déjà une très grande figure dans le monde. C'est un grand malheur que les livres de leurs maîtres soient perdus et que les fables des esclaves soient restées. C'est la honte de la nature humaine que des gens qui se sont toujours plaints de l'intolérance deviennent eux-mêmes les plus intolérants des hommes.
Lecture par Pierre Vernier pour France Culture. Donc ce sont des esclaves qui ont fabriqué des fables, c'est ainsi qu'ils parlent de la Bible. Mais excusez-moi, il est un peu littéraliste, parce qu'il devrait avoir suffisamment de connaissances de l'histoire et des genres littéraires pour savoir que la Bible, les livres de la Bible, sont faits de livres qui obéissent à des codes. Alors il dit c'est horrible, il y a beaucoup de morts, mais le nombre de morts, il est symbolique.
Bien sûr, mais nous sommes à la moitié du XVIIIe siècle et à l'époque, on prend la Bible au sens littéral. C'est-à-dire qu'il ne se met pas du point de vue de la spiritualité comme du côté des croyants, des catholiques, des jansénistes, des molinistes. La Bible, quand on dit que Ève a été créée à partir de la côte d'Adam, ce n'est pas symbolique, c'est comme ça. Et si vous refusez cette explication, vous risquez d'être brûlé. Donc il attaque les gens justement pas sur le côté spirituel, mais sur le fait qu'ils veulent absolument prouver que ce que la Bible raconte est quelque chose d'absolument littéral. Donc, ils se battent avec leurs propres armes.
Je veux bien, il y avait déjà eu le début de l'interprétation critique de la Bible. Et si on parlait alors des évangiles et pas seulement des horreurs de l'Ancien Testament, qu'est-ce qu'il dit des évangiles? Il trouve que c'est bref, alors ça c'est un avantage, il aime bien ce qui est cursif.
Ouais, absolument.
Mais
ceci dit, il est pas sévère vis-à-vis de Jésus, sauf anecdotiquement quand Jésus cherche les marchands du temple, il dit c'est quelqu'un qui est complètement fou, ces gens vendaient des petites choses comme des souvenirs à la porte des églises, en quoi est-ce qu'il faisait du mal. Mais par contre... Il pense que là aussi, ce sont des fables, puisque ceux qui ont écrit les évangiles, c'était bien après la mort de Jésus, et que la soi-disant descendance de David à Jésus est quelque chose de complètement fabriqué.
Alors le Coran ne va pas non plus toujours trouver grâce devant lui, bien évidemment, parce qu'il pense que les grandes religions monothéistes s'échangent leurs pitoyables secrets, et que... Ensuite, comme dans une noria, l'une va l'emporter sur l'autre sans qu'on y voie nécessairement davantage. C'est en tout cas le thème d'une pièce qu'il avait écrite plus jeune, bien avant l'affaire Calas, en 1741, Mahomet le prophète, dont le vrai titre était « Le fanatisme » ou « Mahomet le prophète ».
Vois quel est Mahomet. Je suis ambitieux. Tout homme l'est sans doute, mais jamais roi, pontife ou chef ou citoyen ne conçut un projet aussi grand que le mien. Chaque peuple à son tour a brillé sur la terre, par les lois, par les arts et surtout par la guerre. Le temps de l'Arabie est à la fin venu. Voici les jours nouveaux marqués pour la victoire. Élevons l'Arabie, il faut un nouveau culte, il faut de nouveaux fers, il faut un nouveau dieu pour l'aveugle univers.
Alors, le parti dévot déclenche aussitôt contre moi une formidable agitation. Il ne me pardonne pas ma tragédie de Mahomet, où, sous couvert de dénoncer le fanatisme musulman, je condamne en fait tous les arbitraires religieux, donc l'Église catholique. Je prie, si j'ose dire, le taureau par les cornes. Et si quelqu'un raconte un jour l'histoire de ma vie, il devra montrer à présent le personnage du monde qu'on attend le moins quand il s'agit de Voltaire. Sa sainteté, Benoît XIV.
Alors tu as écrit au pape.
Une lettre exquise, respectueuse.
C'est-à-dire avoir du mal.
Accompagnée d'un compliment en vers latin et d'un exemplaire de Mahomet dédicacé. Ma tragédie sert sa propagande, puisqu'elle peint Mahomet sous des couleurs atroces. Juge la tête des dévots parisiens quand ils me verront avec mes breloques pontificales.
Bon, je vous laisse démêler l'indémêlable, hein, André Versailles. Après une charge contre le fanatisme chrétien, il va demander une bénédiction au pape.
Oui, mais c'est un stratège. C'est un stratège parce qu'il veut justement lutter contre les jansénistes qui ont pris fait et cause, évidemment, contre lui, et qui sont ses ennemis, autant que les molinistes d'ailleurs. Et donc, en écrivant au pape et en lui envoyant sa tragédie, il va essayer d'avoir des remerciements du pape, puisque le pape est quand même quelqu'un de très courtois. Et le pape va le remercier, mais pas pour sa tragédie. C'est parce qu'il envoie en même temps un autre ouvrage, et c'est cet ouvrage qu'il va remercier, et ne va rien dire sur Mahomet. Par contre, Voltaire, lorsqu'il va publier une nouvelle version de Mahomet, il met l'échange de correspondance entre Benoît XIV et lui, et il trafique la lettre parce qu'il dit « Je vous remercie pour votre admirable pièce, Mahomet ».
Alors, il faut être honnête, nous, on parle surtout, comme dans votre auto-dictionnaire Voltaire chez Omnibus, des textes des 10 ou 15 dernières années, et là, il s'est adouci, non seulement vis-à-vis des Arabes, à qui il dit « on a à leur égard une dette de reconnaissance », mais aussi... à l'égard de l'islam.
Bien sûr. C'est-à-dire, des trois monothéismes, c'est celui qui trouve le plus de grâce à ses yeux. Pas beaucoup, parce qu'il considère que Mahomet est à la fois un bandit de grand chemin, mais il dit « mais c'est un peu normal, l'époque, etc. » Donc, il relativise les choses. Mais il y a un respect pour la civilisation arabe. Très important. C'est-à-dire qu'il y a des tas de textes qui sont... c'est pour ça que les discussions qu'il y a eu, ce que vous rappeliez à Genève, lorsqu'on a monté la pièce Mahomet, les gens ne comprennent pas. C'est-à-dire qu'il faut...
Attendez, on a monté la pièce sur Mahomet. Vous évoquez le projet qu'avait, il y a une vingtaine d'années, Hervé Louachmol, et qu'il ne doit plus caresser maintenant qu'il est directeur de la Comédie de Genève, de monter dans la capitale alors calviniste de la pièce de Voltaire. Et ça avait été une volée de bois vert.
Je sais, mais encore une fois, parce que les gens, vous savez, au XVIIIe siècle, comme déjà au XVIIe, vous aviez les Turqueries, il y avait une manière de pouvoir parler, pour si on voulait contourner la censure, c'était le seul moyen. Les lettres persanes, c'est la même chose, évidemment, ce ne sont pas des Perses, nous sommes bien d'accord. Mais à l'époque, il n'y avait ni le politiquement correct, et en plus, il n'y avait pas, je veux dire que les Arabes n'en savaient rien. Je veux dire, il n'y avait pas d'Arabes qui lisaient Voltaire ou une infime minorité, bien évidemment, de les gens qui connaissaient la langue française. Donc on est dans un autre monde et il faut absolument se rendre compte dans quel monde on est pour pouvoir juger de ce que la pièce veut dire. Et la preuve, ni les jansénistes, ni les molinistes, ni les jansénistes ne se sont trompés. Ils l'ont attaqué, non sans raison, bien évidemment.
Mais les frères Ramadan, qui voulaient empêcher la mise en scène de Louachmol, disaient à l'époque qu'il y a danger à décontextualiser. C'est ce que vous avez fait, vous, quand même, avec votre projet.
Alors moi, j'ai décontextualisé d'abord, parce que c'est le principe de la collection. Mais ce qui est intéressant, c'est que ne pas avoir le contexte fait que l'on lit ces textes comme s'ils étaient absolument contemporains.
Merci à vous, André Versailles.
J'ai un ami qui a étudié Voltaire en une demi-heure. C'est quand même un peu rapide pour étudier Voltaire.
C'est votre point de vue, hein, c'est un peu rapide. Vous vouliez une heure, mais dans un instant, la précocité intellectuelle de l'enfance à l'âge adulte avec Daniel Fievet. Et puis demain, le témoin du vendredi dans la marche de l'histoire, Christian Dupavillon, nous racontera sa participation à la montée au Panthéon de François Mitterrand. C'était il y a bien longtemps, il y a une génération, en mai 1981. La réalisation Jacques Sigal, Sandrine Laurent retrouvée à la technique, Ilinka Negulesco, Frédéric Martin et Franck Olivard dans la marge de l'histoire. Il est 14h, vous écoutez France Inter.